Voici les deux textes liturgiques pour ce premier, pour ce dimanche dans l'octave de Noël. L'épître est tirée de Saint Paul aux Galates. Mes frères, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. De même, nous aussi, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, né sous la loi, pour affranchir ceux qui sont sous la loi, afin de nous conférer l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie à bas, Père. Ainsi, vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, vous êtes aussi héritiers grâce à Dieu. On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus et Marie, mère de Jésus, étaient dans l'admiration des choses que l'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est au monde pour la chute et la résurrection d'un grand nombre en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. Vous-même, un glaive transpercera votre âme et ainsi seront révélées les pensées cachées dans le cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et en vécu depuis sa virginité 7 ans avec son mari. Restée veuve et parvenue à 84 ans, elle ne quittait point le peuple. Le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle aussi, survenant à cette heure, se mit à louer le Seigneur et à parler de l'enfant à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant croissait, se fortifiait, était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était en lui. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc cette semaine, messe tous les jours à Padiès, 8h du lundi au vendredi et 10h samedi. Mercredi prochain, nous aurons le cours sur les actes du magistère à 19h. Pour les retraites, j'ai plus que 2 places. Il reste 1 place pour chacune des 2 retraites d'octobre. Les autres retraites sont pleines. Je rappelle que nous aurons la prochaine réunion pour le tiers-ordre le samedi 18 janvier et le prochain repas de paroisse aura lieu le 28 janvier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avons aujourd'hui dans les textes liturgiques de ce dimanche dans l'octave de Noël exactement le même message qui nous a déjà été donné pour Noël. Le grand message de Noël, celui que les gens veulent pas voir, veulent pas entendre. Le message est tout simple, je vous l'ai déjà expliqué pour la fête de Noël. Derrière la crèche se cache la croix. Derrière l'incarnation se cache la rédemption. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme pour mourir sur la croix. Donc je vous avais expliqué que d'après les pères, le bois de la crèche représente le bois de la croix. Les langes dans lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est enveloppé représentent le linceul qui va recevoir le corps sanglant de notre Seigneur après sa mort. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on trouve exactement la même image. La très sainte Vierge Marie arrive toute heureuse pour présenter son enfant au temple de Jérusalem, avec Saint Joseph, son époux. Elle tient son enfant dans les bras. La loi disait que lorsqu'un enfant venait au monde, lorsque le premier enfant de la famille venait au monde, il devait être offert au temple. Certaines formules de consécration, préparation du baptême, qu'elle arrivait plus tard. Et la très sainte Vierge Marie est arrivée donc pour offrir son enfant. La loi disait que les pauvres pouvaient offrir une petite offrande. En général, ils offraient un couple de tourterelles. Donc ça, c'est la partie joyeuse. Mais derrière, il y a une partie douloureuse qui arrive. Dans le temple, sur le parvis du temple, un vieillard attendait. Saint Siméon. Il y avait avec lui une prophétesse, Anne, qui avait 84 ans. Et le bon Dieu avait révélé à Siméon qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu dans ses bras le Sauveur du monde. Et lorsque l'enfant est arrivé, porté par sa mère, avec Saint Joseph, notre Seigneur a dit, le bon Dieu a dit, l'Esprit Saint a révélé à Saint Siméon à ce moment-là, voilà, cet enfant, c'est le Messie. Alors il va se lever d'un seul coup avec la prophétesse Anne et puis ils vont aller prendre l'enfant. Ils vont saisir cet enfant qu'ils attendaient depuis tant d'années. Et il va y avoir là certainement un des textes les plus importants de l'Écriture sainte. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute, pour la résurrection de beaucoup en Israël. Puis il va regarder la très sainte Vierge Marie droit dans les yeux et va lui dire un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et on voit bien exactement la même chose, c'est-à-dire la joie, la présentation au temple, mais tout de suite la croix est là. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. La très sainte Vierge Marie est Notre-Dame des douleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle est co-rédemptrice. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi la très sainte Vierge Marie, elle qui est toute douceur, pourquoi la très sainte Vierge Marie va devoir participer à notre rédemption. Dieu a voulu que sa mère participât au plan de rédemption qu'il avait sur nous. Et comme, dans sa sagesse divine, il avait décidé que la très sainte Vierge Marie, que la rédemption se ferait par la croix, bien évidemment, la très sainte Vierge Marie va devoir être crucifiée avec son fils. Et ça, c'est un mystère absolument insondable. On a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, parce qu'encore une fois, on vous regarde les choses avec un regard humain, alors qu'il faut regarder toutes ces choses avec un regard divin. Notre Seigneur Jésus-Christ va donc être, nous dit Siméon, un signe de contradiction pour la chute ou pour la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de neutralité qui tienne. On est obligé de faire un choix, ou pour ou contre. Ou pour, et on l'utilise pour notre résurrection, pour monter vers Dieu, ou contre, et on l'utilise pour notre chute, pour tomber loin du bon Dieu. Et Notre-Dame va être, à cause de ça, un signe de contradiction. L'enfant va être un signe de contradiction, et Notre-Dame va être un signe de contradiction, parce que justement, elle est co-rédemptrice. Et si la très sainte Vierge Marie est un signe de contradiction en tant que co-rédemptrice, n'oubliez pas, mes bien chers frères, que nous, catholiques, c'est un peu la même chose. Nous aussi, nous sommes un peu co-rédempteurs, chacun à son niveau. Les parents, par exemple, qui éduquent des enfants, ils savent très bien, les enfants, il faut les arracher au démon, il faut les arracher à l'esprit du monde, c'est pas facile. Et donc, les parents doivent participer au plan de rédemption de Dieu sur chacun de nos enfants. De même qu'il faut donner une double naissance à nos enfants, ils naissent dans la chair, mais ils doivent aussi naître dans l'esprit, il faut les aider à conserver la foi. De la même façon, il va falloir participer à cette lutte terrible contre le démon, contre la chair, contre l'esprit du monde. Alors, on peut aller beaucoup plus loin dans ces considérations, ce sont des considérations connues, les pères de l'Église en ont beaucoup parlé. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Et souvent, j'ai remarqué, lorsqu'on explique ces choses à nos fidèles, ils comprennent de travers, parce que la plupart du temps, quand je leur pose cette question, pourquoi Dieu est-il un signe de contradiction? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Ils vont me répondre parce qu'il est Dieu. Mais c'est faux. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un signe de contradiction parce qu'il est Dieu. Parce que les gens qui se prétendent Dieu, c'est pas ça qui manque dans le monde moderne. Allah est présenté par les musulmans comme étant Dieu. Vous avez des tas de faux dieux dans le monde entier. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est-il un signe de contradiction? Non pas parce qu'il est Dieu, mais à cause du premier commandement qui ne dit pas simplement « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Le premier commandement dit aussi « Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence ». Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Il est un signe de contradiction non pas parce qu'il se présente comme Dieu, mais parce qu'il se présente comme unique Dieu. Pas pareil. Le monde, si vous voulez, et sous la domination, peut-être sous la domination du vrai Dieu, ou sous la domination des milliers de faux dieux qu'il y a dans le monde entier. Et c'est pareil pour l'Église. Et ça, il faut arriver à le comprendre. Quand on pose la même question à propos de l'Église, pourquoi est-ce que l'Église catholique est-elle persécutée dans le monde moderne? La plupart des gens nous répondent parce qu'elle est divine. Mais encore une fois, ce n'est pas la raison. C'est le même raisonnement qui va s'appliquer là. Parce que les églises qui prétendent être divines, c'est pas ça qui manque. L'église musulmane prétend être divine, l'église bouddhiste prétend être divine, toutes les églises modernes païennes prétendent être divines. Pourquoi est-ce que l'église catholique est un signe de contradiction? L'église catholique est un signe de contradiction parce que, justement, l'église catholique est l'unique église. Hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Vous avez remarqué ça dans le monde moderne. Quand vous dites l'église catholique est divine, pas de problème. De jeune personne. Mais si vous ajoutez hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut, alors là, c'est un déchaînement de haine. Les gens vont vous dire tout de suite, mais pour qui vous prenez-vous? Et c'est pareil pour nous. Un catholique, c'est quelqu'un qui est en but à la contradiction. Un catholique, c'est quelqu'un qui est un signe de contradiction dans le monde. Et on peut aller même plus loin que ça. Quelqu'un qui n'est pas un signe, un catholique qui n'est pas un signe de contradiction dans le monde, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'un catholique doit être un signe de contradiction dans tout ce qu'il fait. Sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de se comporter professionnellement, sa façon de se comporter dans sa famille, sa façon de se comporter socialement. Un catholique, c'est quelqu'un qui est différent. Et c'est ça qu'il faut arriver à expliquer à nos enfants. C'est le message le plus difficile à faire passer. Un catholique, c'est quelqu'un qui dit non, très souvent, au monde. Un catholique, c'est quelqu'un qui a une façon de vivre totalement différente parce que le monde centre tout sur l'homme, alors que le catholique va tout centrer sur Dieu. Et une fois qu'on a compris ça, à ce moment-là, tout devient limpide, je dirais. Pourquoi? Parce que le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. C'est ça que nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si je refuse la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas catholique. Et c'est toute la différence fondamentale qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église catholique prêche la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix qui est plantée sur l'autel, puisque l'autel c'est la croix. Alors que l'Église de Vatican II prêche l'homme. Donc soit on prêche notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, soit on prêche l'homme, l'homme divinisé, l'homme qui devient Dieu et qui prend la place de Dieu. Vous voyez, c'est absolument, absolument fondamental. La vie sur la terre, mes bien chers frères, n'est pas un long fleuve tranquille, et vous le savez très bien. La vie sur la terre est une vie de combat. Ça, c'est très important à expliquer à nos enfants, qu'ils le sachent. C'est pour cela qu'il faut recevoir la confirmation. Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il donné le sacrement de la confirmation? Parce que celui qui a été confirmé, qui a reçu le sacrement de confirmation, devient un soldat. Et un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sieste dans la caserne? Un soldat, c'est quelqu'un qui se bat. Donc, un catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Quelqu'un qui porte la croix, là, on va pas au ciel en tapis roulant. On va pas au ciel sur une longue route, une ronde parsemée de roses et de parfums. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Et ça, il faut expliquer ça à nos enfants, expliquer ça à ceux qui vont bientôt se marier. Hein, le 15 février, Georgina et Paul se marieront en Espagne. Et il faut qu'ils comprennent ça. Et tous, vous devez comprendre ça. Le mariage, c'est pas une longue partie de plaisir. Et si vous ne croyez pas, demandez aux gens mariés. Ils le savent très bien. Le mariage, c'est un combat. Les gens se disent, c'est bien, on va se marier, c'est magnifique, on va se regarder dans le blanc des yeux et on va se dire, je t'aime toute la journée. Mais c'est pas ça le mariage. Ça, c'est une déformation totale de ce qu'est le mariage. Pour nos prêtres, c'est pareil. Voilà, des prêtres qui se sont ordonnés prêtres et qui pensent « Ah, c'est magnifique, je veux devenir prêtre, et puis je vais offrir le sacrifice rédempteur tous les jours. C'est magnifique et tout le monde va se convertir. » Eh bien, on tombe vite de notre piédestal, je peux vous assurer. On se rend bien compte tout de suite que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la vie est un combat. Oui, mes chers frères, ce qu'il faut arriver à comprendre, et c'est le grand message de cet évangile qui est absolument fondamental, qui va être repris plusieurs fois d'ailleurs dans les temps de Noël, à cause de son importance. C'est pour cela que les pères appellent la vie spirituelle le combat spirituel. Le combat spirituel parce que c'est un combat entre deux volontés. La volonté de l'homme contre la volonté divine. Je ne sais plus quel est le saint qui avait dit, lorsque je me suis fait religieux, qui était prêtre, il était dans son monastère, il dit, quand je suis arrivé dans la vie religieuse, je suis rentré dans ma cellule et j'ai eu un grand combat. Je me suis battu avec quelqu'un qui était dans ma cellule. Il a fallu qu'il y ait un des deux qui passe par la fenêtre, ou lui ou moi. Et il a fini par mettre l'ennemi, à jeter l'ennemi par la fenêtre. L'ennemi, c'était sa volonté propre. Vous voyez, mes bien chers frères, tout est là. Tout est là. Et c'est ça le message de Noël. On retrouve, vous voyez, ce qui va être expliqué au fur et à mesure pendant tout le temps de Noël, ce chemin qui est absolument fondamental à prendre. On part de la crèche, on monte au calvaire, et du calvaire, on peut aller au ciel. On part de la nature, on passe par la grâce pour arriver à la gloire. Et la crèche, on la trouve où ? La crèche, c'est l'autel. L'autel, c'est la crèche. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ vient dans la crèche, entre les bras de la très sainte Vierge Marie, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ va venir sur l'autel pendant la Sainte Messe. Le calvaire, c'est la croix, évidemment. Et le ciel, c'est le tabernacle. Est-ce qu'on réalise ça ? Est-ce qu'on réalise que au tabernacle, notre Seigneur Jésus-Christ est là, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, le tabernacle, c'est le ciel. Le tabernacle a toujours été considéré comme une partie du paradis, une partie du ciel. Et si je suis en état de grâce, eh bien je participe à cette joie, à cette gloire du ciel. Dans la crèche est associé à l'autel. L'autel va être associé évidemment à la transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est quoi ? C'est le changement de substance. Dans le mystère de la Sainte Eucharistie, le pain qui devient le corps du Christ, le vin qui devient le sang du Christ, et le calvaire est associé lui à la croix, est associé au sacrifice. C'est le sacrifice de la croix. Parce que la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La troisième étape, c'est le ciel, c'est le tabernacle, ça représente la communion. Est-ce que je comprends qu'à chaque fois que je communie en état de grâce, je reçois notre Seigneur Jésus-Christ ? Alors je reçois notre Seigneur Jésus-Christ, même si je communie en état de péché mortel, malheureusement. C'est pour ça que c'est un sacrilège épouvantable de communier en état de péché mortel. Et si je suis en état de grâce, je reçois toutes les grâces dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, mon âme est transformée en un bout de paradis par la communion. Est-ce que je réalise à chaque fois que je m'approche de la Sainte Table du banc de communion le dimanche, quand je communie, est-ce que je réalise que mon âme devient un bout de paradis ? C'est une crèche, j'ai expliqué ça mercredi dernier pour la fête de Noël. Mon âme devient une crèche. Et donc il faut que je m'en occupe de cette crèche. Et là on retrouve les trois grandes vertus théologales, foi, espérance, charité. La foi correspond à la crèche, l'espérance au calvaire et la charité bien sûr au ciel. Alors vous voyez toutes ces choses qui se succèdent, la crèche, l'autel, la transsubstantiation, la foi, le calvaire, la croix, le sacrifice et l'espérance, le ciel, le tabernacle, la communion, la charité. Donc en quelque sorte, la méditation de la crèche nous aide à comprendre le but de la vie. Je suis sur la terre pour me battre, je suis sur la terre pour aller au ciel. Et on ne veut pas au ciel le carrosse. C'est ça la prophétie de Siméon. Cet enfant sera un signe de contradiction. Et donc évidemment, soyez pas surpris si les gens du monde sont absolument incapables de comprendre ça. Incapables de comprendre ça. Et nous, je vous assure qu'une soutane sur le dos, c'est des choses qu'on comprend. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, j'ai raconté plusieurs fois aux retraites, mais je ne sais pas si je l'ai dit en sermon, ça m'est arrivé deux fois. Une chose qui m'a profondément bouleversé. Une fois à Paris, une fois à Strasbourg, j'étais allé à Paris pour acheter un livre. À l'époque, j'habitais dans le nord de la France, j'avais des courses à faire à Paris, et donc j'avais fait ma course, et je revenais vers la bouche du métro pour récupérer ma voiture. Et J'ai marché sur le trottoir, il y a pas mal de monde qui marchait sur le trottoir. Et à peu près 100 mètres devant moi, sur le même trottoir que moi, marchant en sens inverse, j'ai vu un homme qui marchait en sens inverse, donc il se rapprochait de moi. Il m'a vu en soutane, il s'est arrêté net. Il m'a regardé, il s'est appuyé contre la maison qui était à sa droite. Et il m'a regardé avec une haine que j'ai jamais vue dans un regard humain. Il m'a vu m'approcher, je me suis approché, il m'a regardé. J'avais l'impression d'avoir un lion devant moi. J'arrive à sa hauteur, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « Bonjour mon père. Comment allez-vous mon père? Bonne journée mon père, que le bon Dieu vous bénisse. » Parce que je savais qu'une telle haine ne pouvait venir que d'un prêtre moderniste. Pourquoi? Parce que c'est un prêtre d'un certain âge, cette soutane il avait portée. Cette messe que je dis tous les matins, la messe traditionnelle, il l'avait célébrée. L'enseignement traditionnel de l'Église, il l'avait aussi donné. Ça m'est arrivé deux fois, ça m'est arrivé aussi une fois à Strasbourg. À Strasbourg, avec une petite variante, le gars m'a regardé. C'était pas un prêtre celui-là. Il m'a dit, les prêtres, d'un, on en fera deux. Puis il m'a fait le signe, couper les prêtres en deux. Il m'a beaucoup éclairé ce jour-là. C'est là où on comprend l'homme, le catholique est un signe de contradiction. Alors posez-nous cette question, est-ce que je suis un signe de contradiction? Ne vous attendez pas, encore une fois, à voir les gens du monde qui vous disent « Ah, c'est tout mignon, c'est très beau, la foi catholique est quelque chose de magnifique. » Non, c'est un combat, mes bien chers frères. Combat contre sa volonté propre, combat contre l'esprit du monde, combat contre l'esprit de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est soit la liberté, l'égalité, la fraternité, soit la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Soit c'est les 10 commandements de Dieu pour les catholiques, soit c'est la déclaration des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas unir les deux choses, c'est impossible. C'est pour ça que l'Église est un signe de contradiction. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Et c'est pour ça que vous et moi, nous devons être des signes de contradiction. Pourquoi? Parce que nous sommes, à notre petit niveau, un peu des co-rédempteurs, nous aussi. Nous aussi, il faut souffrir. C'est par la souffrance que vous sauverez les âmes de vos enfants, c'est par la souffrance que vous sauverez votre propre âme, c'est valable pour tout le monde, y compris pour moi, prêtre. Alors, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Il est bien dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Vous savez, pour la très sainte Vierge Marie, elle risque quand même se poser des questions. Quand elle a entendu cette phrase terrible, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'est-ce qui est passé dans le cœur immaculé de Marie? Ce jour-là, elle a compris. Elle a compris qu'elle commençait déjà maintenant, devant le temple de Jérusalem, à être une co-rédemptrice. Elle participe à notre salut. Et pour pouvoir participer à notre salut, elle porte la croix pour nous. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui porte la croix devant nous. Vous avez la très sainte Vierge Marie qui porte la croix derrière nous, et nous on est au milieu entre les deux. Il ne s'agit pas de dire, ils font tout le travail, c'est magnifique, bon Dieu porte la croix, la sainte Vierge Marie porte la croix, et moi je vais les encourager à s'en toucher au bout de la croix, pas question. Le bon Dieu va s'arranger pour qu'une partie du poids de la croix repose sur notre épaule, sur nos épaules. Rassurez-vous, le bon Dieu porte la plus grande partie du poids de la croix, la très sainte Vierge Marie fait la même chose, il en reste un peu pour nous. Et le bon Dieu, c'est exactement le genre de croix que nous pouvons porter. Le poids de la croix que nous pouvons porter. On a trop tendance peut-être à se dire, le bon Dieu ne se rend pas compte. Bien sûr qu'il se rend compte, parce que la croix, il sait ce que c'est, il l'a portée. Alors, ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, mais au contraire, utilisons ce temps de Noël pour nous aider. Le temps de Noël est relativement court, et n'oubliez pas que juste après Noël, qu'est-ce qu'il y a? Juste après, les dimanches après l'Épiphanie, tout de suite, c'est la Septuagésime, la Sexagésime, la Quinquagésime, et le mercredi de cendre, et la Passion. Le carême et la Passion. Donc, on voit très bien, liturgiquement parlant, comment le temps de Noël amène à la Passion, amène à la croix. Et après la Passion, qu'est-ce qu'il y a? Après la Passion, il y a la résurrection et l'ascension au ciel. Donc Noël, le calvaire et le ciel, représenté par l'ascension, là où va notre Seigneur Jésus-Christ après sa montée après qu'il ait quitté cette terre. Alors ne nous décourageons jamais, mes chers frères. Ne nous décourageons jamais, même si la vie n'est pas facile. Encore une fois, la vie d'un catholique n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un combat constant, un combat avec la volonté, un combat avec l'intelligence, un combat avec le cœur, un combat contre les trois concupiscences, contre la concupiscence de la chair, contre la concupiscence de l'orgueil, contre la concupiscence des yeux. Il faut l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, il faut toutes ces grandes vertus, mais le bon Dieu nous les donne, ces vertus. Dans la crèche, il est là. Et si Jésus rentrait dans la crèche, me mettre à genoux avec les anges, avec les rois mages, avec les bergers, eh bien, je vais recevoir toutes les grâces dont j'ai besoin. Et avec l'aide de la très Sainte Vierge Marie, parce que n'oubliez pas que toutes ces grâces viennent par elle. Hein. Elle n'est pas simplement co-rédemptrice, elle est médiatrice aussi. Hein. Faut pas séparer les deux choses. Elle est co-rédemptrice, elle est médiatrice du genre humain. Et donc, la très Sainte Vierge Marie va nous aider à porter notre croix pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.